France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Le chiffre est fou, hein. 93% des actifs que nous sommes songent à se reconvertir. 93%, c'est peut-être vous, donc, mais comme une grande partie de ces gens qui vous ressemblent, vous avez beau aimer la cuisine, la mécanique, les fleurs et que sais-je, cette conversation sur le changement de métier, le changement de vie n'a pas dépassé le stade des mots exprimés en fin de repas avec des amis. Moi aussi, j'en peux plus de mon job, je rêve de faire autre chose. Le faire autre chose, c'est 38% quand même des 93% qui veulent tout balancer par les moulins. Il faut être courageux, parfois. Il faut être motivé, c'est sûr. Il faut y avoir bien réfléchi, mais quand c'est fait, que vous êtes prêt à foncer, il y a des erreurs à ne pas faire, il y a beaucoup de choses à savoir et c'est ce qui va nous occuper ce soir. Les partenaires sociaux sont en pleine discussion, ça commence aujourd'hui, sur les dispositifs de reconversion qu'il faut simplifier, on va vous expliquer. La question, les questions, c'est comment ça se passe pour changer de métier sans lâcher tout de suite mon entreprise? Qu'est-ce que je dis à mes employeurs? Est-ce qu'ils peuvent refuser? Rappelez-moi comment ça marche, mon compte personnel de formation, puisqu'on en a tous un. Est-ce que je dois forcément m'orienter vers un métier dit en tension? Sinon c'est la chute assurée. Appelez-nous si vous avez fait des erreurs aussi et que vous voulez les épargner aux autres. Appelez-nous si vous êtes un peu perdu avant de vous lancer. Comment avoir confiance en la formation qui vous fera changer de vie? Est-ce que les employeurs les recherchent, ces anciens cadres ou anciens ouvriers, peu importe, qui passent à toute autre chose? Est-ce que c'est plus difficile de trouver un employeur, de trouver peut-être un apprentissage au démarrage quand on a passé 40 ans? Réussir une reconversion sans heurts? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Olivier, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Olivier.
Merci pour votre travail et votre émission.
Eh ben merci à vous.
Tous les jours.
On vous écoute.
Alors ben moi il y a une dizaine d'années, alors que j'étais employé dans une usine mécanique, on fabriquait des boîtes à vitesse pour une marque américaine de voitures dans la Gironde, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un CIF, congé individuel de formation à l'époque, qui permettait de s'absenter de l'entreprise plusieurs mois et de suivre une formation. Et j'ai pu me reconvertir dans l'informatique, parce que j'étais passionné d'informatique depuis une quinzaine d'années à ce moment-là. J'avais monté une première boîte dans l'informatique, mais jamais pu passer la barrière des ressources humaines, puisque aucun diplôme. Et uniquement fait en autodidacte. Mmh. Et par conséquent, suite à l'obtention du diplôme, j'ai pu passer la barrière des RH et avoir un technicien en face. Et j'ai rarement échoué à une embauche, du coup, puisque vraiment, j'ai eu la chance, depuis 10 ans, de travailler dans ma passion.
Eh ben, bravo, on est heureux pour vous. Olivier, vous aviez quel âge quand vous avez fait le switch?
40 ans.
Vous aviez 40 ans, d'accord.
J'avais 40 ans, et alors c'est vrai que obtenir un stage, parce que toujours il faut un stage à la fin des formations, à 40 ans, ça a été compliqué, très compliqué. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans la famille qui avait une entreprise où il avait besoin de services, et donc je suis allé le faire, parce qu'il n'aurait pas eu les moyens de se les payer. Mmh. Mais c'est vrai que la vraie barrière, elle est là. C'est réussir à trouver le stage parce que les employeurs sont pas toujours sûrs de la fiabilité de la personne qui veut la reconversion. On sait pas pourquoi il l'a voulu ou autre. Et du coup, on peut comprendre que ce soit compliqué pour l'employeur de prendre quelqu'un en stage. Surtout, ce sont des courtes durées.
Ben, on verra, Olivier, merci beaucoup. On verra si ça a changé, ça, justement, s'il est devenu doucement, s'il est rentré dans les mœurs, en fait, que les gens changent de carrière et c'est comme ça. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous fait un joli démarrage, Olivier, pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table. Il y a Christelle Thieffine, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale CFE-CGC à la protection sociale. Il y a Laurence Bourgeois, bonsoir. Vous êtes autrice et coach certifiée. Vous avez notamment écrit « Se reconvertir pour les nuls, trouver sa voie professionnelle ». Et il y a Nicolas Bergerot, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Co-fondateur de l'atelier des chefs. Je vais vous poser la question, mais peut-être à vous, Laurence Bourgeois, d'abord. Est-ce que ça a changé, ça? Est-ce que le regard que les employeurs peuvent porter sur un gars de 40 ans passé qui cherche un stage, est-ce que le regard a changé ou il y a encore du boulot?
Je pense que le regard a changé quand
quand on sait qu'aujourd'hui, bon, alors déjà la jeune génération, on le sait, changera, si on en croit les statistiques, 13 fois d'emploi au cours de sa vie. Donc finalement, la reconversion...
D'emploi ou de boîte ? La statistique, elle dit qu'on garde le même métier, on change de boîte ou on change d'emploi 13 fois ?
Ah, on peut... Là, c'est en changer d'emploi 13 fois.
De métier, donc, quasiment.
Exactement, exactement. Et mais tout est possible, effectivement. On peut changer aussi de métier dans sa propre entreprise. Et ça, c'est souvent beaucoup plus facile parce qu'on fonctionne par petits pas.
Est-ce que c'est ce que vous dites aussi, Nicolas Bergerot, à vos étudiants, à l'atelier des chefs ? Attention, t'as 40 ans, 50 ans, donc il va falloir... Faut arriver avec une autre narrative, en fait, chez l'employeur. Faut lui vendre autre chose.
En fait, c'est eux qui viennent à nous en disant... Je me pose des questions. Comme vous le disiez en introduction, j'ai toujours rêvé d'être ébéniste, coiffeur ou cuisinier. Je me suis rendu compte, le Covid a aidé, malheureusement, que je m'ennuie un peu dans mon boulot et j'ai envie de changer. Alors avant, c'était plutôt des soixantenaires, puis des cinquantenaires, puis des quarantenaires, puis maintenant, on a même des trentenaires, voire des vingtenaires, qui ont à peine commencé à travailler et qui veulent déjà changer de vie, changer de métier, changer d'orientation, changer de... Mettre du sens un peu dans leur carrière. Donc les métiers d'artisanat auxquels on forme, évidemment, aident beaucoup.
Ça dit à quel point, Christelle Thiéfine, c'est exactement ce que sont en train de faire les négociations, ça dit à quel point il faut de la souplesse, parce qu'en effet, si on change 13 fois dans sa carrière, si on a envie que ça aille plus vite, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la vie va plus vite, et puis qu'on a envie, surtout quand on est prêt à se lancer, de pouvoir le faire maintenant, ça dit à quel point il faut simplifier en fait ces procédures.
Il faut effectivement simplifier pour des questions d'accessibilité pour la personne qui a envie de changer et puis aussi pour l'entreprise parce qu'il y a quand même beaucoup aussi d'entreprises qui accompagnent soit ces évolutions, soit ces reconversions et notamment quand on parle de petites entreprises, des TPE, quand on parle de fleuristes notamment, voire de restaurateurs, ce sont des petites structures. Donc quand elles veulent accueillir quelqu'un qui a la volonté de faire une reconversion, il faut que pour elles ce soit simple en termes de démarche. Et puis il y a la question du financement qui se pose souvent.
C'est marrant parce que on va y venir au financement. J'ai l'impression que Olivier, qui nous a appelé tout à l'heure, est presque une espèce en voie de disparition parce que ce qu'on voit beaucoup, mais peut-être que c'est une image d'Épinal, c'est effectivement ce que vous disiez, Nicolas Bergerot, c'est-à-dire c'est la cuisine, c'est la pâtisserie, c'est l'ébénisterie, ce sont les fleuristes, exactement, les métiers des mains. Ça doit être assez rare finalement aujourd'hui, non, d'avoir un mécanicien qui veut devenir informaticien. On a l'impression que ce n'est pas le même esprit de conversion.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 40 ans, on voulait faire de la France une nation de col blanc et au contraire, les métiers maintenant de l'artisanat reviennent en flèche. Et je dirais même que ça va encore augmenter avec le développement de l'intelligence artificielle. Il y a un paquet de jobs à probablement relativement faible valeur ajoutée intellectuelle qui peuvent disparaître. Et ces gens-là vont se replier sur l'artisanat, où là, pour le coup, on manque de main-d'œuvre partout, sur tous les métiers, partout en France. Donc il y a des vraies opportunités.
Est-ce que votre boulot, et c'est peut-être pour vous aussi d'ailleurs, Laurence Bourgeois, cette question, c'est pas d'abord de dire aux gens, est-ce que tu sais exactement où tu mets les pieds, en fait ? À quoi ça ressemble, le métier que tu veux faire ? C'est pas juste un passe-temps que tu fais le week-end ou etc. Voici à quoi ça ressemble, voilà ce que ça demande en termes d'engagement, voilà ce que ça dit d'un point de vue de salaire. Ou est-ce que tout ce travail, avant d'arriver chez vous, il a été fait par les gens désormais?
Non, personnellement, c'est mon métier en tant que coach d'accompagner en amont de la démarche de reconversion, de procéder à une phase de questionnement sur les vraies motivations, parce que souvent on se rend compte qu'on cherche à fuir une situation plus qu'à aller vers autre chose. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait le tour de mon job, je trouve plus de sens dans ce que je fais, je n'en peux plus, etc. Donc, quelles sont les aspirations profondes, les motivations? Partant du principe qu'une reconversion, c'est passer d'un point A à un point B. Donc ça veut dire un déplacement, une motivation, un mot erré. Et donc il y a une énergie vitale. Et moi, ce que j'ai entendu chez Olivier, c'est que ça part d'une passion au départ. Qu'il a dans un petit coin de sa tête depuis 15 ans.
Oui, ça part pas d'un « je m'ennuie », ça part de « je me suis trompée, en fait, je ne fais pas ce que je veux faire ». Il doit y avoir ces deux... Est-ce que vous avez ces deux profils en face de vous? Le profil qui dit « je m'ennuie » et le profil qui dit « c'est pas ma passion » sont deux profils qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, Nicolas Bergerot.
Non, mais ils sont
complémentaires. Est-ce que vous vous méfiez des gens qui arrivent en disant « je m'ennuie » ?
On peut être dans les deux. Le « je m'ennuie », c'est « j'ai choisi ce métier par sécurité, pour faire plaisir à mes parents, pour ce genre de là ». Et puis en fait, c'est pas mon truc, quoi. Et parce que, quand on était en fin de troisième, c'était pas valorisant d'aller faire un parcours professionnalisant. Or, maintenant que je me suis prouvé que j'avais eu mon bac, que j'ai pu trouver le job à Oubé, maintenant j'ai envie de faire le job que j'aime, avec effectivement les limites quand même de se dire, attention, c'est pas rien que de devenir fleuriste, on le disait, ou cuisinier, ou ébéniste, voilà, c'est d'autres contraintes, c'est d'autres qualités qu'il faut pouvoir développer.
Ce sont des métiers très difficiles et qui demandent évidemment plein de temps, c'est aussi ça, et d'investissement. Un autre exemple, celui de Caroline, et puis on reviendra à quelques modalités quand même. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, je veux témoigner de ma petite expérience et reconversion. J'ai été éducateur sportif, directrice de centre de loisirs pendant de mes 20 ans jusqu'à mes 35 ans. Un métier que j'ai exercé avec passion. Hein. Je dirigeais des centres de loisirs tout l'été et le reste de l'année, je travaillais dans un service des sports. Mais j'ai toujours voulu faire de la coiffure. Quand j'étais petite, je coiffais la famille. Enfin voilà, je m'exerçais sur tout le monde. Et mon père, qui était un très grand sportif, avait dit si tu pouvais faire autre chose que coiffeuse, ce serait bien. Et donc je me suis dirigée vers le sport. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et à l'âge de 35 ans, j'ai dit en fait c'est ce que je veux faire. Donc, j'ai pris des vacances. Alors là, moi, pour le coup, différemment de Olivier, j'ai pas du tout pris un CPF ou un CIF ou j'ai pas du tout été financée. J'ai financé moi sur mes propres deniers, sur mes vacances de la mairie où je travaillais, parce que j'étais dans la fonction publique. Et je suis allée me former à la coiffure. Et j'ai passé mon CAP en candidate libre à 35 ans. J'étais un peu la mamie de l'équipe, mais voilà, ma reconversion s'est faite comme ça. Je l'ai eue brillamment et ainsi de suite. Et après, j'ai intégré un super salon avec une patronne qui s'appelle Eva et que je serai toujours reconnaissante, qui m'a pris à 35 ans. Voilà, et j'ai fait mon début de carrière comme ça. J'en ai 53 maintenant. Et je suis ravie d'avoir changé de vie. J'encourage tout le monde à le faire parce que franchement, ça vaut le coup. Maintenant, j'ai mon salon, j'ai mon propre salon, j'ai mon équipe. Et voilà,
mais vous faites quand même encore du sport ou pas?
Oui, j'habite à Chamonix, donc je fais beaucoup de sport.
Voilà. Vous marchez beaucoup, voilà. Merci.
Et juste, je pense que c'était dans les gènes, parce que j'ai ma sœur jumelle qui nous écoute d'ailleurs, et qui a eu aussi le même parcours, c'est qu'elle était assistante sociale. Et elle a terminé, elle dirige un bar au bord de la plage en Normandie. Voilà. Donc, elle a changé de vie également. Voilà. Et j'encourage tous ceux qui veulent le faire à le faire, c'est trop bon.
Eh ben, écoutez, voilà. Merci beaucoup pour ces encouragements, merci pour la jolie voix positive. On embrasse aussi votre sœur jumelle depuis son bar en Normandie. Christelle Thieffine, notre amie Caroline, elle y va toute seule, elle prend des congés, elle dit rien à personne, elle finance. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, 20 ans après, ça n'existe plus, ce genre de reconversion-là? Ou surtout, on ne l'encourage pas du tout. Enfin, il y a moyen de ne plus le prendre à sa charge, quoi, en fait. C'est ça que c'est.
Oui, en fait, il y a plusieurs modalités, hein, ce qu'il faut retenir pour faire des reconversions. Soit on peut le prendre à sa charge seul et le financer. Alors, notamment, il y a ce qui a été dit, hein, des systèmes comme le CPF qui permettent ce genre de choses.
Compte personnel de formation.
Voilà, tout à fait, le compte personnel de formation. Mais vous avez aussi des dispositifs, donc ça c'est varié, soit par exemple si vous êtes au chômage, il y a des aides pour la reconversion, et donc notamment il faut aller voir les différents organismes qui sont sur les territoires qui peuvent vous aider, hein. Donc France Travail, vous avez aussi pour les personnes de l'encadrement, la PEC, et puis vous avez différents dispositifs dans les territoires, donc ça c'est pour les personnes qui sont à l'extérieur, et puis quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez aussi moyen de faire des reconversions, cette fois-ci financées par votre employeur.
Alors justement, est-ce que il faut dire aux gens qui nous écoutent, surtout ne quittez pas votre entreprise avant d'avoir fini votre formation? Est-ce que l'ordre, c'est vraiment ça? Je commence ma formation alors que je suis toujours dans mon entreprise.
L'idéal est effectivement celle-ci. Il faut que l'entreprise l'autorise, donc soit d'accord, parce que notamment, c'est elle qui accompagne la rémunération, donc c'est quelque chose qui est important. Donc, pour cela, il faut qu'il y ait l'autorisation et donc l'entreprise soit d'accord. Et la plupart du temps, elle est d'accord parce que soit la reconversion, ça va concerner son entreprise elle-même, parce que vous pouvez changer de métier.
Mais sinon, si moi, là, Radio France, je veux faire une reconversion boulangerie, est-ce qu'ils ont le droit de me dire non?
Oui,
parce
bien sûr.
Parce que du coup, il n'y a aucun intérêt pour la boîte.
Bien sûr, ils ont totalement le droit. Hein, donc effectivement,
oui, mais si vous utilisez votre compte CPF, vous pouvez le faire complètement en plus de votre job. nous, c'est 80% des gens, ils sont en poste, ils choisissent une formation, ils vont la financer eux-mêmes par leur compte CPF. Vous savez, le compte CPF, ça tombe tous les ans. Donc, en fait, il y a une quantité d'argent relativement importante. Et donc, les gens vont choisir le métier et, à la fin, décider ou non s'ils préfèrent rester à Radio France ou devenir boulanger. Dès lors que ce n'est pas sur le temps de travail. Oui, attention. On ne fait pas ça pendant les heures de boulot.
Voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent d'accord d'entreprise, parce qu'en dehors des heures de travail, ça peut être le soir, ça peut être aussi sur des jours de congé. Donc, l'employé n'est pas obligé de le dire, évidemment, à son entreprise, peut le partager complètement. Moi, ce que je rappellerais sur la question de l'employabilité, c'est que c'est une obligation des entreprises. Donc, notamment quand une entreprise est en difficulté, soit elle est en transition et elle va s'occuper de la formation de ses salariés pour transitionner dans ses propres métiers. Mais c'est aussi la question de l'employabilité à l'extérieur. Si à un moment donné, l'entreprise ne sait plus occuper son salarié pour diverses raisons, elle a aussi quand même ce regard qu'elle doit avoir et cette obligation de s'occuper de l'employabilité à l'extérieur.
On se posait la question tout à l'heure de savoir quel est le regard de l'employeur quand il voit arriver quelqu'un qui a 40, 50, parfois plus d'ailleurs. Eh bien, la réponse peut-être celle de Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir.
On vous écoute. Vous êtes chef d'entreprise Marie-Pierre.
Oui, exactement. Je suis costumière. J'ai un atelier de fabrication de costumes de scène dans le sud de la France. Et je reçois une dizaine de stagiaires par an. Et j'aime particulièrement les stagiaires en reconversion, parce que c'est des gens qui ont fait des vrais choix, comme vous le disiez précédemment. C'est mûrement réfléchi et souvent ça part de passion. Et on se retrouve avec des gens qui ont des étoiles dans les yeux quand ils travaillent, qui ont la maturité, l'implication dans le poste. Et qui, pour eux, c'est magique. Après avoir fait 30 ans en tant que technicien labo, j'ai l'exemple de Claire, avec qui je travaille maintenant régulièrement. Maintenant, je l'embauche en tant que... Elle a monté sa propre entreprise et c'est une vraie reconversion. Et moi, j'aime beaucoup ces profils, en fait, parce qu'ils sont mûrs. À tous les sens du terme, en fait. C'est un projet mûri, la maturité de la vie, et c'est un vrai régal, en fait.
Après, voilà. Vous avez une entreprise, Marie-Pierre, j'allais dire un peu particulière, c'est-à-dire vous travaillez avec vos mains, vous avez besoin de créativité dans le job. Est-ce que c'est ça, selon vous, qui vous donne cette appétence pour ce genre de profil, ce qui n'est pas forcément le cas, effectivement, dans une entreprise un peu plus lambda, où vous avez le sentiment?
Oui. C'est des métiers passion. Et souvent, c'est des passions qui ont été refoulées pendant X années parce que, en l'occurrence, le textile, la couture, etc., c'était des métiers sinistrés. Et il y a énormément de gens qui ont passé beaucoup d'années à faire autre chose parce qu'il ne fallait pas aller dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, qui se révèlent très heureux à mes côtés. Et je suis très heureuse à leur côté.
On est content que vous soyez tous heureux. Marie-Pierre, voilà. Merci beaucoup. Nicolas Bergerot qui veut réagir.
Marie-Pierre, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites plaisir. On vient de lancer, nous, une préparation au CAP de couture 100% digital. Et on a une demande, mais incroyable, de gens qui disent, en fait, j'ai toujours fait ça un peu, mais maintenant, je vais en faire mon métier. Et ce que j'entends là, c'est vrai que c'est des gens, en plus, qui choisissent, ont déjà eu une expérience professionnelle, sont un peu plus sereins et dans leur tête et dans leur carrière et vont s'éclater dans ce nouveau métier. C'est formidable.
Hein. Je vais vous donner la parole, Laurence Bourgeois, mais vous avez dit 100% digital, je reviendrai là-dessus. Laurence Bourgeois, allez-y.
Moi, ce que j'ai entendu aussi chez Marie-Pierre, c'est que les personnes arrivent chez elles, elles sont préparées, le projet est mûrement réfléchi et surtout, Marie-Pierre dit, elles ont réussi à me raconter une belle histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la reconversion, c'est plusieurs étapes et je crois que la dernière étape, c'est un rôle de vente quelque part. Une fois qu'on est prêt, qu'on a son projet en main, comment on va raconter la belle histoire et le construire auprès d'un futur employeur?
Alors, il y a deux messages sur WhatsApp que je voudrais soumettre à votre sagacité. Je disais tout à l'heure qu'on allait plus souvent vers des métiers manuels que l'inverse. Je ravale cette remarque. Voici Emilien qui dit « J'étais charpentier. Pendant le Covid, à presque 40 ans, j'ai repris des études à distance à la fac. Aujourd'hui, je suis en thèse financée. J'ai fait tout le cursus universitaire de ma poche en travaillant à côté. Il n'y a rien pour ceux qui se reconvertissent en faisant des études longues. » Je trouve que cette remarque est intéressante. Elle rejoint celle de Coco, qui est sage-femme depuis 31 ans, qui essaye de se reconvertir en prof de SVT. Et c'est pas si simple, les formations ne sont pas si facilement acceptées. J'ai l'impression qu'à 56 ans, on ne voudra pas forcément de moins, alors qu'en fait, on manque de profs. Un mot là-dessus, Christelle Thieffy?
Oui, donc effectivement, alors, on parlait des reconversions. Ce qu'on observe, c'est beaucoup de reconversions avant 40 ans, donc dans la tranche les moins de 35 ans. Et c'est souvent des personnes qui, par rapport à leur formation initiale, il y a eu quelque part, alors soit un loupé, on disait tout à l'heure, soit parce que j'ai choisi, plus parce que je ne savais pas trop, choisi par rapport à mes parents, ou soit aussi il y a eu un manque de formation, des gens qui sont rentrés très rapidement sur, sur le monde du travail et qui finalement se disent, bah, je vais refaire des formations. Donc là, il y a effectivement...
Il y a un trou dans la raquette.
En tout cas, la reconversion professionnelle, ce n'est pas la même chose que la formation initiale. Donc, ce n'est pas prévu, en fait, tout simplement. Hein?
Donc, on a plus confiance en un ébéniste qui va être formé par Nicolas Bergerot qu'une ancienne sage-femme qui veut devenir prof de SVT, en fait.
Je ne sais pas, ce n'est pas une question de confiance, c'est tout simplement que les cycles de formation ne sont plus les mêmes. Et c'est pas prévu pour ça, en fait.
On parle de reconversion dans le téléphone ce soir avec Christelle Thieffine, qui est secrétaire nationale CFE-CGC à la protection sociale, avec Nicolas Bergerot, qui est cofondateur de l'atelier des chefs, et avec Laurence Bourgeois, qui est autrice et qui est coach certifiée également. Et avec vous, Marion, bonsoir.
Bonsoir, Fabienne.
On vous écoute, Marion.
Oui, donc moi j'ai 58 ans, donc se reconvertir à 58 ans, c'est pas si facile. Je tombe sur pas mal de gens qui trouvent que je devrais plutôt penser à la retraite que penser à la reconversion, mais ma retraite c'est quand même dans 10 ans. Donc moi j'étais dans la publicité depuis toujours et j'étais cofondatrice d'une agence que j'ai vendue et donc à cette occasion je me suis dit je veux faire autre chose de ma vie dans les 10 prochaines années. C'est pas du tout un loupé pour moi, hein. Je me suis éclatée dans la publicité et là je me reconvertis vers l'insertion, la réinsertion des personnes qui sont en détention ou qui en sortent.
Mmh. Et c'est quoi le regard sur votre âge en fait, Marion? Comment se fait-il que, comment on vous regarde? Est-ce qu'on vous dit, quoi? Débrouille-toi, attends 2 ans, t'auras l'âge légal et puis tu te débrouilles. C'est quoi l'idée sur l'âge?
Alors non, côté employeur en fait, mon profil fait peur. C'est-à-dire que
Parce que vous êtes trop capé en fait, trop diplômé, trop capé.
Oui, c'est ça, trop diplômé, trop capé. Donc une DG à manager, ça va être infernal. Elle a sûrement bien gagné sa vie, donc le pauvre salaire que je vais lui proposer dans le social, ça va pas aller. Donc je me vois maintenant, quand j'écris des lettres de motivation, parler vraiment du salaire en disant mon enrichissement personnel aujourd'hui, il passe pas par ça. Il faut vraiment que j'attaque le sujet en frontal, parce que sinon, ça n'a aucune chance de passer.
Merci beaucoup. Merci vraiment pour ce témoignage, Marion. Je trouve ça vraiment intéressant. Elle a été DG, elle a été patronne. Ouh là là. Alors ça, sûrement pas. Donc, on n'a pas confiance dans ce genre de profil-là, en fait. Qu'est-ce que vous en dites les uns les autres, Nicolas Bergerot? Met sur son CV, Marion, pour ne pas faire peur aux gens? Parce que c'est ça, l'idée, en fait.
Je dirais que, évidemment, ça dépend des métiers, mais... On est encore un tout petit peu formaté en France avec des parcours de carrière qui sont les mêmes. Moi, je trouve ça formidable d'entendre Marion qui veut totalement changer de vie et qui est prête à repartir en bas de l'échelle. Mmh. On avait l'autre jour un responsable de la logistique dans une grosse boîte de logistique et qui, lui, passait son CAP de mécanique moto parce qu'il voulait ouvrir un garage. Mais quand il nous a dit combien il gagnait, c'est-à-dire que c'était monstrueux, mais il a tout plaqué parce qu'il voulait finir... Il avait la même chose, 57-58 ans. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus facile de devenir entrepreneur dans ce cas-là, choisir un métier dans lequel on peut monter sa propre structure, plutôt que d'en joindre une autre, parce qu'effectivement, ça fait des profils qui ne sont pas très bien compris, pas très bien accepté encore aujourd'hui. C'est triste, mais c'est comme ça.
Est-ce qu'il faut mentir? Bah non, mais on n'est pas obligé de dire qu'on
sur
a été DG. Non, pas sur son âge. On peut toujours dire qu'on a travaillé dans la pub sans donner de détails particuliers, en fait, non?
En fait, moi, il me semble que c'est compliqué. Alors, sur, on va dire, les seniors de la reconversion, il y a effectivement la question du salaire qui fait peur. Hein, donc parce qu'on peut avoir des exigences qui sont plus importantes et qui sont méritées. Donc ça, c'est le premier point. Et je crois que c'est effectivement la question de l'autorité, de l'autonomie que la personne a prise. Et en fait, ça, on ne peut pas... Je pense que ce n'est pas sain de mentir. Parce que je ne pense pas qu'on retombe au bas de l'échelle. On a acquis une expérience, on a des savoir-faire ou des savoir-être qui sont particuliers. Et c'est ça qu'il faut arriver à valoriser sans que ça fasse peur.
Elle n'est pas toute seule, Marion, sur son âge. Il y a aussi Mostafa qui est là et qui dit « Je suis à 1 an de mon âge légal de départ à la retraite, mais à 5 ans du départ à taux plein. La transition pro peut-elle me refuser la prise en charge financière de mon projet de formation, justement à cause de mon âge, par exemple ? Est-ce que c'est une barrière, l'âge, Laurence Bourgeois, ou pas ?»
Moi, je pense que les portes peuvent ne pas être toutes ouvertes En revanche, se reconvertir, c'est un acte courageux. Aller d'un point A à un point B, je disais tout à l'heure que c'est une mise en mouvement, mais c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Et on parlait, Christelle, de soft skills. C'est vraiment ça, c'est beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance. Des portes qui se ferment, il y en aura. Et je pense qu'il faut garder espoir, parce qu'on voit de très beaux projets, même chez des seniors.
Voici Stéphane qui est avec nous. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi j'ai fait 25 ans d'industrie pharmaceutique et je m'étais toujours dit que ça serait pas 42 ans et qu'à mi-parcours, il fallait que je choisisse un autre chemin. Donc je me suis lancé dans un projet de reconversion. À la suite d'un bilan de compétences, en fait, tout ce qui ressortait, c'était la transmission. Et c'est vrai que ça me trottait depuis un petit moment dans la tête, pourquoi pas l'enseignement. Je me suis lancé dans l'aventure, alors j'ai pris le chemin classique, c'est-à-dire j'ai repris mes études à 46 ans, la certification, le concours, pour être sûr d'avoir un emploi. Je voulais pas prendre le chemin je voulais être titulaire. Mmh. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, donc ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le métier, il y a clairement des postes que j'ai sous-estimés dans mon projet de reconversion. C'est j'ai quitté un esprit d'équipe pour aller vers un métier plus solitaire. Et ça, je l'avais clairement sous-évalué. C'est un métier où on est clairement face aux élèves et assez solitaire. Mmh. Deuxième chose, le profil des élèves en 5 ans, il a super évolué. J'ai eu 4 magnifiques premières années. Et là, cette 5e année, c'est mon année de doute, où j'ai beaucoup de choses à reconstruire suite à l'évolution du profil des élèves. Mmh. Voilà. Donc il y a plein de petits points, en fait. Je me rends compte que, et puis bon, voilà, j'ai 53 ans, je me projette pas dans une troisième reconversion. Mmh. Et c'est plutôt me réinventer aujourd'hui dans le métier d'enseignant. Mais ça, voilà. Et puis la charge des copies, la correction des copies. Mmh. Et le métier 7-7. C'est un métier 7-7 entre les vacances scolaires.
Je sais pas si vous l'avez dit, Stéphane, vous êtes devenu prof de quoi, pardon?
À biologie,
d'accord, ok. Ouais. Merci beaucoup, merci vraiment. Ce que ça dit, Laurence Bourgeois, c'est à quel point, mais en même temps, on a l'impression qu'il avait tout fait bien, Stéphane, y compris sur ce qu'allait être son métier d'enseignant, et puis finalement, effectivement, il y a des choses qu'on ignore.
Il s'est préparé, il a rejoint un nouveau parcours, ouais, avec ses écueils, avec ses succès, avec les copies à corriger, mais aujourd'hui, qui peut dire qu'on a un métier parfait? Je crois qu'à un moment donné, il a quitté l'industrie pharmaceutique, alors je ne sais pas si Stéphane avait un métier scientifique dans l'industrie, mais toujours est-il qu'il y a une cohérence. Il enseigne la biologie, peut-être. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il est en période de doute, mais c'est le doute aussi qui permet d'avancer. Et à un moment donné, il a passé le cap, il a testé, et je pense qu'il aurait peut-être regretté de n'avoir rien fait, Stéphane.
Mmh. Voici Véro qui nous dit « Je suis fonctionnaire, j'ai 54 ans, j'ai envie de changer de métier, mais je me demande si c'est pas trop tard. Donc il y a beaucoup de gens qui ont la problématique de l'âge. Je ne veux pas perdre trop de salaire. C'est peut-être un problème, mais c'est bien qu'elle le formalise, en fait, et qu'elle le dise. Ça me trotte quand même dans la tête depuis un moment, mais je sais pas vers qui me tourner, ni comment activer le compte formation. Comment est-ce qu'on active son compte formation, Christelle Thiéfine ?
Bah écoutez, en fait, là c'est assez simple, hein. Vous avez sur les réseaux là toutes les informations qui sont disponibles, mais le mieux pour pas tomber dans le piège, parce que en fait, du point de vue sur Internet, on peut faire ce qu'on veut. Pour activer, on peut trouver des tas de formations qui sont éligibles, mais ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la bonne formation qui est adaptée et qu'on a envie de faire. Voilà, ce qui est utile pour soi et sur lequel on va aussi trouver un métier qui est pérenne, même si c'est que pour 10 ans. Et moi, mon conseil, c'est vraiment d'aller voir au niveau local. Il y a, encore une fois, il y a France Travail, vous avez les mairies, dans les départements, il y a des missions locales qui vous aident en fonction de vos profils. Si vous faites partie de l'encadrement, il y a l'APEC, où vous avez des professionnels qui vous aident. Et donc ça, c'est vraiment utile de se tourner vers ces dispositifs. Et là, vous allez avoir des gens qui vont vous aider.
On a Magda qui nous dit « Après 15 ans dans le marketing et dans la com, je suis devenue professeure d'économie au lycée. Ça fait 10 ans que je ne regrette rien. J'ai perdu plus de la moitié de mon salaire, les premières années notamment, mais j'ai gagné en qualité de vie et mon métier désormais a un vrai sens. » Le sens, ça, j'imagine que c'est les mots que vous entendez les uns les autres. Je me suis arrêtée sur une chose, Nicolas Bergerot, tout à l'heure, vous allez parler de digital. Vous formez beaucoup en digital, y compris la couture, par exemple.
On forme en digital uniquement à des métiers d'artisanat. Ouais. Alors, je sais que c'est complètement contre-intuitif.
C'est ça. Il faut me raconter comment on fait pour former la cuisine en en digital.
Alors, une formation digitale, c'est pas que digital. C'est 200 heures de digital, parce qu'il faut apprendre la différence entre un poisson rond, un poisson plat, un poisson à deux filets, un poisson à quatre filets. Mais après, il y a 200 heures de pratique. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque petit parcours digital, il faut faire une entrée, un plat, ou un plat et un dessert, comme au CAP. Et là, je peux vous dire que c'est de la vraie pratique. Et vous devez envoyer des photos de ce que vous avez produit, les ingrédients, les mises en place, les cuissons, les dressages. Pour que nos experts métiers, et ça c'est valable en cuisine comme dans tous les métiers, en couture, en maçonnerie ou en carreleur mosaïste, la dernière formation qu'on a lancée. Donc les experts vont vous noter sur photo. Force est de constater que ça marche, on a 97% de réussite
sur photo,
à l'examen
du CAP.
Sur photo,
c'est dingue, si le gâteau est bon, ça passe, mais on sait pas s'il est beau, mais si on sait pas s'il est bon.
Eh ben, alors mon chef vous dira que s'il est beau...
C'est qu'il est bon ?
C'est qu'il est bon. Ah. Et que moi j'ai passé mon CAP, et donc... Comme c'était au tout début, j'essayais un tout petit peu de tricher. Donc, notamment, j'avais des petits pois, je ne savais pas comment faire que mes petits pois ne soient pas flétris, donc je les ai mis crus.
Vous les mettiez en plastique.
Et là, ils m'ont dit, non, non, hey,
ils l'ont vu ?
Honnêtement, vos petits pois, ils ne sont pas cuits. Bon, ils voient tout, la texture de la sauce, la façon... Quand on demande de lever un filet de poisson, on ne demande pas simplement à voir le filet, on veut voir aussi les arêtes pour voir s'il ne reste pas trop de chair dessus. Donc, en fait, je vous assure que nos experts métiers sont tellement forts que pour tous les métiers, ils arrivent à bien former.
Ouais,
je garantis que ça marche.
Laurence Bourgeois, je pense que l'une des frayeurs, effectivement, des gens qui se reconvertissent, c'est aussi quelle formation ? Où est-ce que je vais ? C'est quoi la meilleure ? Qu'est-ce qui est le mieux adapté ? Etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de jungle ? Parce qu'effectivement, c'est devenu aussi un filon, la formation. Est-ce qu'on sait se repérer dans cette jungle-là, désormais ?
Bien sûr, il y a pléthore de formations qui visent à acquérir ou développer les compétences. Il y a certains métiers où c'est absolument indispensable. Et en revanche, cette formation et ces compétences doivent s'accompagner d'une motivation qui doit être presque démultipliée par rapport à l'apport de compétences. Et c'est ça qui fera que demain, on réussira. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on aimera faire, mais parce qu'on aime faire quelque chose, j'en suis convaincue qu'on saura le faire.
Est-ce qu'on oriente vers les métiers en tension ou pas ? C'est plutôt pour vous ça, Christelle Thiéphine, et aussi pour Nicolas Bergerot. Faut-il orienter vers les métiers en tension ? Font-ils dissuader vers les métiers qui ne sont pas en tension ? Qu'est-ce que vous dites ?
Non, alors, c'est important pour la France, d'aller sur les métiers en tension, parce que, en fait, c'est des endroits où on a besoin de salariés qui soient qualifiés, qui soient performants, et qui soient à tout niveau de compétences. Ça va du l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur, les métiers en tension, donc c'est important.
Mais est-ce que la reconversion aide à combler les métiers en tension ou pas du tout ?
Alors,
en fait
ça aide,
parce que quand on entend les motivations, c'est juste, j'avais envie de faire autre chose,
mais alors c'est là où en allant justement dans les missions locales, qui peuvent renseigner sur les métiers qui sont en tension dans son territoire, si on a envie de rester dans son territoire. Mmh. Et effectivement, c'est aussi d'apprendre ce que c'est. Parce que je comprends que fleuriste ou cuisinier, ça peut faire rêver.
C'est ça.
Mais d'aller dans l'industrie, on a parlé de l'industrie pharmaceutique, mais dans l'automobile, dans l'industrie métallurgique, il y a beaucoup de beaux métiers, peut-être qui sont méconnus. Et dans les métiers en tension, ça garantit aussi d'avoir un travail et qu'il y a un travail qui est pérenne.
On va avoir une nouvelle pâtissière, si je puis dire, dans un tout petit instant au téléphone. Nicolas Bergerot, est-ce qu'il vous arrive de dissuader des gens en leur disant vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous attend ? Peut-être que vous êtes bon pâtissier, mais vous ne vous rendez pas compte.
Il y a quelques métiers qui sont vraiment super exigeants. Je pense au boulanger.
Ouais.
Boulanger, ceux qui nous disent j'aime pas me lever tôt, on leur dit bah, sois pas boulanger. Je veux dire, ça peut pas fonctionner. Ah oui, mais j'aime bien faire le pain. Je dis oui, bah, d'accord, mais c'est pas suffisant. Donc en effet, on passe beaucoup de temps, et Christelle le disait tout à l'heure, le CPF, c'est pas la panacée. CPF, c'est une ouverture, c'est un budget. Après, on pose beaucoup de questions aux gens parce que nous, en fait, on sait très bien que s'ils commencent à se former chez nous mais qu'ils vont pas au bout, on sera jamais payé. Donc on préfère qu'ils soient très motivés par leur formation.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Caroline Godin, vous avez quitté votre poste de directrice de com dans une société de conseil, vous êtes devenue pâtissière. Qu'est-ce qu'on vous a dit d'ailleurs ? Est-ce qu'on vous a dit, t'es bien sûr, c'est un sacerdoce ? Vous le saviez déjà ou il a fallu l'apprendre ça ?
Alors je crois que je m'en doutais un peu, mais j'ai quand même découvert que c'était encore plus compliqué et plus difficile que ce que j'imaginais.
Ouais.
Mais je suis pas découragée.
Mmh. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la pâtisserie, Caroline ? Est-ce que c'est, après tout, je fais des gâteaux depuis que je suis toute petite ? Non, mais c'est vraiment une vraie question, et je le fais très bien d'ailleurs. Autant en faire mon métier, est-ce que ça venait de plus loin ?
Je crois que ça, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, bien sûr, on m'a déjà posé la question, j'en ai toujours fait, et j'ai toujours été louée par mon entourage sur mes qualités de pâtissière, qui m'ont parfois demandé pourquoi j'en faisais pas mon métier, je me suis jamais vue pâtissière, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, au-delà d'être pâtissière, je pouvais être entrepreneur en pâtisserie. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je crois que c'est ça qui a fait basculer les choses. C'est-à-dire que j'étais dans un job que j'adorais, mais qui commençait à présenter quelques limites pour moi. Et je crois que cette reconversion, ça a été avant tout de se dire, je vais être entrepreneur et je vais faire une entreprise autour de ce que j'aime faire, à savoir la pâtisserie.
Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, en fait. Mais alors, est-ce que vous pâtissez toujours ou est-ce que vous êtes au fond pâtissière ou chef d'entreprise? Comment vous vous définissez aujourd'hui?
Je crois que c'est ni l'une ni l'autre, parce que je suis encore en reconversion, c'est pas du tout fini.
D'accord.
Je suis en train de faire mes études. Je suis à l'atelier des chefs, bonjour monsieur Bergerot, et je suis actuellement même en stage de CAP, je prépare mon CAP avec l'atelier des chefs. Voilà, donc je pratique la pâtisserie dans une entreprise, je suis stagiaire, okay. Et je suis pas encore chef d'entreprise, mais c'est en train de mûrir dans ma tête.
Et est-ce que, très sincèrement, alors je comprends très bien que votre famille trouvait que vous faisiez des gâteaux géniaux, est-ce que la première baffe, c'est un peu quelqu'un qui vous dit, ben, il n'est pas si top que ça ton gâteau en fait? Est-ce que c'est aussi par là que ça commence de réaliser qu'une passion et un métier sont deux choses bien différentes?
Mais bien sûr que je l'ai pris cette claque et je l'ai prise très vite. et celle-là, vous la prenez en stage, quand tout d'un coup, vous vous apercevez que ce que vous pensiez savoir faire, vous le faites très très mal, avec beaucoup d'erreurs. Mais c'est justement le début de l'apprentissage. Et je crois que, justement, le fait que les stages soient obligatoires, notamment dans la pâtisserie, ça permet de faire un peu le tri entre le rêve qu'on peut avoir d'un métier à travers une passion et la réalité de ce métier. Et clairement, c'est un métier très difficile.
Caroline, merci beaucoup. Laurence Bourgeois, métier ou passion? C'est là aussi que ça commence chez vous, non? Le boulot de coach. Attention, c'est ta passion, c'est pas forcément ton métier. Ça, c'est un
pour
truc
moi,
que vous prononcez beaucoup.
Tout part, Fabienne, de la passion. Parce que c'est ce qui permet la mise en mouvement, le désir, la pulsion de vie, hein, donc l'envie d'aller vers et pas de chercher à fuir une situation. Et on a eu plusieurs témoignages ce soir de personnes qui avaient cette passion toujours dans un petit coin de leur tête et qui ont enfin mis en pratique et passé le cap.
Question par oui ou par non, Christelle Thieffine. Christine nous demande, elle est à la retraite depuis le 1er janvier, elle n'a jamais profité de ses droits à la formation, est-ce qu'elle peut les transmettre à sa fille? Non.
Non,
voilà, comme ça c'est clair.
Non, trop tard.
Voilà. Je vous quitte avec Eric, qui était majordome chez Yves Saint-Laurent, figurez-vous, et il s'est reconverti aujourd'hui, il est bouquiniste, et c'est sa passion. Merci, ouais, magnifique. Merci beaucoup, merci vraiment à tous, merci à vos très nombreuses questions, comme d'habitude.